Le théâtre, le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre ?
Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
Pièce détachée, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre.
Sur Radio Campus Paris.
Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas être exclusif.
Et voilà, ça fait un mois que vous l'attendez impatiemment. Nous sommes de retour, c'est Pièces détachées sur Radio Campus. Comme d'habitude, le spectacle vivant à travers l'Île-de-France. Et vous en avez l'habitude, ce sera d'abord un entretien, ce soir avec Brice Berthoux, qui nous parle de sa compagnie Les Anges au plafond, qui fête ses 24 ans d'existence. On parlera de la compagnie en général et d'un spectacle en particulier que nous sommes allés voir au Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi, L'Oiseau de Prométhée. Après ça, il y aura des chroniques et des capsules, plein de choses, ça va être riche, et l'entretien qui est mené par Alice.
Pièces détachées, les arts vivants à la radio. Bonjour Brice.
Bonjour.
Vous venez de Normandie
Absolument. Alors... Je saute du train.
Alors vous êtes de formation funambule à la base, c'est ça? J'avais lu ça.
Oui, un petit détour de vie. Funambule et fil de feriste, puisque c'est funambule à petite hauteur.
Oui, c'est pas pareil.
Voilà, non, pas du tout. À quelques mètres près. Et puis jongleur, ce qui était le premier rapport avec les objets.
D'accord. Et là, actuellement, vous co-dirigez avec Camille Trouvé la compagnie Les Anges au plafond. Pourquoi ce joli titre?
Pourquoi ce joli titre? Parce que c'est l'idée de rêver, d'être aérien, mais quand même en rapport avec le sol, avec le reste de la ville. C'est un titre qui nous est arrivé après une bonne bouteille de Riesling et une discussion avec des amis.
Parce qu'en fait, les anges, c'est des messagers un peu, non? Entre les dieux et...
Oui, et alors, c'est pas du tout biblique, hein.
Okay.
Pas du tout biblique, mais effectivement, ce sont des êtres ailés qui tentent de prendre un petit peu de la hauteur sur, mm-hmm. sur les sujets terre à terre, on va dire.
D'accord. Et alors, vous avez 20 ans, c'est ça, comme disait...
24 ans.
Eh oui, je viens juste de les avoir, là.
Voilà. D'accord. Et les spectacles marquants, alors, de votre compagnie, comment vous pourriez nous en parler? Nous raconter tout ça, ce parcours
Le parcours de cette compagnie, c'est 12 spectacles qui sont toujours au répertoire. C'est-à-dire que nos spectacles sont encore sur les routes. Donc ça, c'est comme une espèce de livre qui se construit petit à petit. Et ça donne un rapport avec les publics tout à fait particulier, puisqu'il y a des publics qui ont vu les 12 pages de notre histoire pour l'instant, qu'on continue évidemment. Ça permet vraiment la rencontre avec plein de thèmes différents. Voilà.
D'accord. Et les quelques titres de spectacles qui vous semblent marquants pour la compagnie?
C'est toujours le premier et le dernier. Il y a L'Oiseau de Prométhée qui est la dernière création depuis notre arrivée au Centre Dramatique National de Rouen, dont on a la co-direction avec Camille.
Bravo.
Voilà, on est très, très heureux d'amener cet art dans cette grande maison. Et puis, il y a Le Cri Quotidien, qui est le tout premier spectacle, qui part en Arménie la semaine prochaine, qui revient du Bénin, qui continue sa vie après 24 ans d'existence. Et puis le prochain qu'on va jouer en région parisienne, Du rêve que fut ma vie, qu'on va jouer pendant 3 semaines au Théâtre 14, chez nos amis, voilà.
Génial.
Voilà, dans le bucolique cadre du bord du périph.
Ouais, absolument, mais c'est une banlieue heureuse. Ils en ont fait en tout cas un quartier heureux.
Voilà, pour 14. Retrouver, c'est entre la porte de Châtillon et la porte de Vanves, et ce sera du 28 mai au 15 juin.
Absolument, tous les jours, sauf dimanche et lundi.
Et le cri, ça évoque quoi, ce cri?
Le cri, c'est un cri journalier. C'est le cri que tout le monde pourrait pousser, mais c'est inspiré en fait d'un fait réel. Un jour, on tombe avec Camille sur un article qui dit que en moyenne, les Français, les Françaises lisent leur quotidien 20 minutes. Alors, ça nous a paru beaucoup et peu à la fois. Très peu pour connaître les nouvelles du monde, et puis beaucoup de prendre 20 minutes dans sa vie pour savoir ce qui s'y passe. Et on s'est dit, on va faire un spectacle de 20 minutes. Voilà. Entre-temps, le spectacle a un tout petit peu grandi, mais en gros, il garde à peu près ce format, et c'est l'actualité qui se donne en spectacle, on va dire, et c'est avec l'art du pop-up, vous savez, cet art qui se déplie.
Dans les livres.
Voilà, absolument.
Ah, je vois bien.
Ouais. Accompagné par une violoncelliste, grande fidèle de l'aventure, Sandrine Lefebvre, qui est toujours avec nous.
Et justement, est-ce qu'on peut avoir un mot sur ces écrivains et écrivaines de ces 12 pages ?
On s'est inspiré d'un certain nombre d'histoires. On aime beaucoup mélanger l'intime et le politique. On aime beaucoup les grandes histoires mythologiques qui, comme aucune autre histoire, éclairent notre monde quotidien. Et souvent, on essaie de mettre en parallèle. Alors, on a monté, par exemple, Au fil d'Oedipe, qui est une tentative de démêlage du mythe. On a monté une Antigone de papier, qui est une tentative de défroissage du mythe. Donc, on aime bien mettre en relation la matière, ces grandes histoires, et puis le monde dans lequel on a les pieds aujourd'hui.
Voilà. C'est un peu le fil conducteur qu'on retrouve dans les spectacles.
Oui, avec peut-être un rapport aussi particulier avec le public, puisqu'on propose souvent des scénographies inclusives. Mmh. Voilà, donc le public est au plus proche de ces histoires, parfois même complètement au milieu, immergé. Mmh. Et ça permet de faire un théâtre premier degré, de sensations, où on ne réfléchit pas uniquement avec la tête, mais des fois avec le cœur, avec les oreilles, avec le... Voilà. On se laisse surprendre par l'histoire comme si on était un élément essentiel, et le public est un élément essentiel, évidemment, du spectacle vivant.
Une troupe qui dure 24 ans, c'est aussi une troupe d'hommes et de femmes avec qu'on rassemble, qui passent, qui probablement ont d'autres spectacles par ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du fonctionnement justement de cette compagnie, des gens qui s'y croisent ou qui y vivent ?
Ben oui, c'est vrai, c'est comme une famille ou un quartier qui grandit. On a commencé à 3, on est aujourd'hui 54 dans la compagnie pour tourner les 12 spectacles qui sont sur les routes. On apprend à se connaître, on apprend à s'aimer. Puis finalement, à continuer à travailler ensemble, c'est pas qu'on va plus vite, c'est qu'on va plus loin, puisqu'on peut compléter notre aventure commune. Donc, il y a certaines personnes de la compagnie avec qui on a fait 5, 6, 7, 8 spectacles. Je pense par exemple à Jonas Coutancier, qui joue plus de la moitié des spectacles du répertoire des
Anges. C'est le Funambule ?
Non, alors lui, c'est Olivier Rostand. Vous ne l'avez pas vu, puisqu'il ne jouait pas dans la dernière création, L'Oiseau de Prométhée, mais il a fait la mise en scène avec Camille et moi. Il joue dans tous les autres, et là il joue actuellement un spectacle, un solo qui est Le Horla. Voilà.
D'accord.
On va faire une petite pause musicale là-dessus et
Qu'est-ce
on
qu'on
revient
écoute
après. Ah, tu veux savoir?
Alors, oui, moi je veux tout savoir.
Manos Mercouri, ouais. Et Manos Hadjidakis, et le morceau c'est Kyr Antonis.
Hey.
Monsieur Andanis. Dans le vieux quartier d'Athènes où il habite, les gens le considèrent un peu comme un fou. Mais les enfants l'adorent. Parce qu'ils ont le même secret. Le secret des rêves. Pour qu'il en donne, la journée est un entr'acte qu'il souhaite vite passer. Il attend la nuit où les rêves habitent. Et dans ses rêves, qu'il en donne, un magicien, il a des pouvoirs, il peut même être heureux.
Κύρ Αντώνης, πάει καιρός που ζούσε στην αυλή.
Κύρ Αντώνης vivait dans son petit quartier.
Με ένα κανάτι, με ένα κρεβάτι και με κρασί πολύ.
Mais il buvait un peu de vin.
Είχε δυο μάτια γαλανά.
Il avait des yeux bleus.
Και αχτενιστά μαλλιά.
Et des cheveux décoiffés.
Και ένα λουλούδι πάντα φορούσε.
Mais il avait une fleur.
Στα ρούχα τα παλιά.
Toujours à sa boutonnière.
Αχ, Κύρ Αντώνη.
Αχ, Κύρ Αντώνη.
Πώς αγαπάμε.
Comment t'aime.
Και μαζί σου τα σταματάμε.
Et on compte les étoiles
τις
avec toi.
Τις βόρτιες για σένα πηδάμε.
On allume des feux.
Ώσπου να έρθει η βροχή.
Jusqu'à l'aube.
Και τον καημό σου πάντα ξεχνάμε.
Et on oublie ta douleur.
Σαν πουλιά μαζί το γυρνάμε.
On vole avec toi comme des oiseaux. On rit avec toi comme des enfants. Quand tu fais de la prière.
L'Andonis
a hâte d'aller dormir.
Γιατί το βράδυ
στο όνειρά του
θέλει να θυμηθεί ότι ποτέ δεν έζησε
μες
στο όνειρό του ζει.
Dans son rêve, il vit.
Μα η νύχτα φεύγει
και
λυπημένο
τον
βρίσκει χαραβή.
Alors que se taisent Mélina Mercouri et Manos Hadjidakis dans Kirantonis, nous retrouvons Brice Berthou. Vous êtes toujours dans Pièces détachées sur Radio Campus. Alors, Brice, pourquoi ce choix musical?
Parce que je pense que, enfin, il symbolise pour moi la tradition grecque complètement vivante encore. Manos Hadjidakis est sûrement, pour moi, c'est le plus grand compositeur grec. On retrouve un peu des accents de Nino Rota, qui a été le compositeur de Fellini. Et voilà, c'est un compositeur qui a fait, puisqu'il est décédé, mais du cinéma, du théâtre, des opéras. Voilà, cette histoire avec Mercouri est magnifique, indépendamment de l'histoire qu'ils ont eue ensemble. Voilà, cette histoire qu'il raconte. C'était un peu pour montrer que cette tradition est encore complètement vivante. C'est ce qu'on entend dans les bus, c'est ce qu'on entend dans les bars encore à Athènes. Voilà,
c'est beau.
C'est pas passé.
Il y a une belle phrase d'un musicien de Gustave Mahler qui dit « La tradition n'est pas le culte des cendres, mais la préservation du feu. »
Ouais, bah absolument ça. Les Grecs s'y connaissent en feu, et notamment en Prométhée.
Oui.
Nous, on a adoré.
Lançons-nous justement sur cet oiseau de Prométhée ou attrapons l'oiseau de Prométhée au vol.
Ouais.
Alors, ce spectacle, je vais le raconter sommairement. On est sur une place grecque où plusieurs histoires vont s'en mêler. Le mythe, la révolte sociale des années 2000, le monde d'aujourd'hui où cette révolte est à l'état de braise, qu'on sent prête à reprendre. Et là-dedans, à la fois un fil de feriste, des marionnettistes, des marionnettes, des gens du public également, sont là devant nous pour nous emmener le long de ces fils d'histoire. Je sais plus. Oui, il y a un moment d'ailleurs, dans le spectacle, ça parle au moment de la théorie
des cordes.
Des cordes, c'est bien ça.
Ouais, qui s'entremêlent.
Et effectivement, c'est. Je ne veux pas en dire trop parce qu'il y a plein de choses à découvrir, notamment dans l'enchevêtrement des images. Mais alors, moi, j'ai quand même une première question là-dessus, c'est. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui sert de base, c'est quel a été le point de départ? L'envie de parler de Prométhée, l'envie de parler de la crise sociale grecque, l'envie de parler de la Grèce.
Oui, parce que vous disiez que vous n'aviez rien à voir avec les dieux, mais...
alors, il y a plusieurs points de départ, mais on va dire l'essentiel, c'est... ce sont des amis, en fait. C'est une histoire d'amitié, voilà, qu'on retrouve d'ailleurs. C'est un des trois axes de ce spectacle. Ce sont trois amis qui ne se sont pas vus depuis 15 ans et qui décident de se revoir pour savoir pourquoi ils se sont séparés, en tout cas pour tenter de comprendre. Et c'est un peu ce qui nous est arrivé. C'est un peu une histoire vraie avec des amis grecs avec qui on était en Grèce pendant cette période, donc toute la période de 2009 à 2016. Et au bout d'un moment, on sentait qu'on ne pouvait plus parler de cette crise grecque parce que on ne pouvait pas comprendre parce qu'on ne la vivait pas au quotidien. C'est en tout cas ce que nous ont dit nos amis. Il n'y a pas de pire phrase en amitié que de dire « tu ne peux pas me comprendre ». Voilà, donc on a mis un petit temps et on a décidé communément, pour garder notre amitié, de ne plus jamais parler politique. Voilà. Et puis pendant un an ou deux, on parle littérature, on parle football, on parle peinture, on parle de plein de choses. Puis à un moment, la politique revient évidemment sur la table, au sens propre comme au sens figuré. C'est pour ça qu'il y a une taverne sur cette place.
Juste pour comprendre, c'était avec des Grecs.
À
Paris?
Non, absolument pas, à Athènes.
À Athènes.
Oui. Et puis voilà. Et un jour, en parlant du mythe de Prométhée, en se disant, c'est quand même fou le parallèle qu'on pourrait tisser entre ces deux périodes, la période mythologique et la période d'aujourd'hui, c'est le châtiment. C'est parce que finalement, les intérêts de la Grèce sont devenus absolument irremboursables. Et donc on ne pourra jamais rembourser la dette puisqu'on ne peut pas rembourser les intérêts. Un petit peu comme Prométhée qui se fait manger le foie chaque jour et qui se régénère chaque nuit. Et en relançant ces deux histoires, comme si elles étaient très éloignées, et ben on a réussi à retrouver un terrain d'entente. Et c'est ce qui nous a donné l'idée de départ du spectacle. Voilà. Mmh. Ensuite, on s'est entouré d'un auteur grec, Christos Christopoulos, qui a écrit donc tout le fil de cette amitié et puis qui nous a aidé à tisser des liens entre la mythologie, le mythe de Prométhée, Zeus, cet oiseau qui le dévore. Et puis, ben, la crise grecque, on s'est surtout arrêté sur les années 2015-2016, avec notamment l'arrivée de Syriza au pouvoir. Et voilà.
D'accord.
Moi, c'est vrai que vraiment ce truc qui a marqué. Et alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'était quelque chose qui venait de vous ou qui venait d'une image qui aurait pu être, qui aurait pu venir dans la culture grecque de cette période-là, mais qui serait resté là-bas sans en tout cas qu'on le sache ici en France, c'est l'analogie entre les parcs et la Troïka. Ça, j'ai trouvé ça formidable. L'idée d'une Troïka qui décide qui vit et qui meurt, c'est venu comment ?
Bah, les parcs décident du fil de la vie. Il y en a une qui le tisse, l'autre qui le mesure, l'autre qui le coupe. Et là, on s'est dit, c'est une histoire de partage avant tout, puisqu'on part du principe que la richesse existe. Mais simplement, elle est sûrement très mal partagée. On n'est pas en Europe, on n'est pas dans le cas où la richesse n'existe pas. C'est simplement qu'elle est très mal partagée. Et on a trouvé assez drôle de faire cette analogie justement avec les trois parts qui, elles, vont décider de ce qu'il y aura dans les assiettes. Donc, comme il y a du public avec nous sur scène, eh ben, certains publics ont des grandes assiettes avec plein de choses dedans. D'autres ont un bout d'olive un peu sèche comme ça. Voilà. Donc, c'est pour dire, tout dépend de comment est-ce qu'on va partager ça. Et ça nous amusait de jouer avec cette analogie-là.
Donc, ce n'était pas totalement fortuit.
Non,
mais il y a un élément qui m'a marqué, c'est que le spectacle parle énormément de cette question du partage, de cette question de ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et la circulation, je dévoile qu'il y a une circulation de plateaux dans la salle.
Oui.
Et il s'est trouvé que nous, par hasard, on était à l'endroit de la limite des plateaux. Et je me suis fait cette remarque quand même de me dire, on parle de partage depuis le début, et les gens devant qui voient passer le plateau pour la deuxième fois ne pensent pas forcément à ceux qui sont trois rangs derrière et qui n'ont pas vu le premier.
Absolument.
Et c'était bien calculé.
Oui, bah c'est prodigieusement inégalitaire, un peu comme la vie quand on ne fait pas attention, quoi.
Et voilà, c'est vrai que ce moment-là, c'est très amusant de sentir, parce qu'on était pour ça très bien placés, de sentir derrière les gens qui, mine de rien, tout en suivant le spectacle, suivent quand même la circulation du plateau et qui se rendent compte assez vite que pour la deuxième fois, le plateau n'arrivera pas jusqu'à eux. Et qui ont un soupir de « bon, allez, c'est pas grave, je suis pas là pour ça » et je regarde le spectacle. Mais oui, c'était vraiment un calcul et donc c'est très réussi cet aspect-là.
Bon, mais en fait, il y a trois, sans tout dévoiler, il y a trois placements du public. Il y a le public dans un rapport entre guillemets normal, scène-salle. Et puis, il y a deux sortes de publics sur le plateau. Du public qui est assis sur un gradin et qui est spectatrice, spectateur de l'histoire. Et puis d'autres qui sont carrément dans la taverne et qui mangent et qui vivent cette expérience. Et effectivement, les trois ne mangent pas du tout la même chose. Et ça joue sur cette idée de frustration, c'est pour aller voir le spectacle la deuxième fois dans une autre position.
Et le fait de jouer dans un théâtre qui a un label sur la diversité des langues, c'est ça ? C'était quoi le label ?
Oui, c'est ça, tout à fait, absolument.
Ouais. Je ne connaissais pas, c'est voulu ou comment ?
Oui, c'est un très très beau projet de Vanessa et toute l'équipe de Choisis le Roi qui font un travail incroyable. Et effectivement, sur la diversité des langues, ils essayent de nous montrer que le théâtre est universel, mondial, et que le théâtre n'est pas qu'une histoire de langue, paradoxalement. C'est-à-dire qu'on peut très bien voir des spectacles dans une langue dite étrangère, c'est-à-dire qui n'est pas la nôtre, et le comprendre tout à fait avec tous les autres sens, quand ce n'est pas traduit, j'entends. Mais voilà.
Et vous, vous inscrivez dans quelle veine, on va dire parce que les marionnettes, aujourd'hui, ça prend tellement de formes différentes. J'ai l'impression que vous faites le pont entre l'ancien et l'actuel, avec cette veine politique qui fait un creuset entre tout ça. Comment vous définissez ?
On a des types de marionnettes, des types de narration et des types de manipulation très divers selon les histoires qu'on choisit. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on aime mélanger l'intime et le politique. Je pense que vraiment le politique éclaire ou parfois même assombrit l'intime, mais l'intime éclaire le politique. Voilà. Donc on aime beaucoup jouer sur cette dualité-là. Après, l'histoire de la marionnette aujourd'hui, c'est très difficile de la cantonner dans un art puisque c'est la croisée des arts qui a fait que le renouveau de la marionnette aujourd'hui. Mmh. Donc on est marionnettiste, mais on est également circassien, on est musicien. Voilà, c'est tout ça qui a nourri et qui fait aujourd'hui la force de cet art. Donc l'art de la marionnette est multiple par essence. Et puis peut-être aussi redire que la marionnette, c'est le seul art qui n'a jamais été censuré parce qu'il n'a pas été pris au sérieux. Parce que on peut se cacher finalement. C'est comme le masque, il révèle plus que ce qu'il cache, même si on est derrière l'objet. Et ça nous permet de dire aujourd'hui des choses qu'on ne pourrait pas dire en tant qu'acteur. Et c'est ce qui nous séduit vraiment dans cet art.
D'accord.
Et on se retrouve après le deuxième morceau choisi par Brice Berthoux.
Échale, aquí viene ahora, pues hay que abrir. Vamos.
Vamos, y dale más lento, se despierta toda.
Margarita, y a vos se fa nero, mete. Esta tola dote muy buena flaca, que se tía, su tía.
Μέσα μου ήσουνα, πες μου πως χωρούσες. Μια μου γέλαγες, δύο μ' απειλούσες. Μέσα μου ήσουνα, τώρα τι θα γίνει. Πάλι καίγουμε σπίρτο και βενζίνη. Παρανάλωμα σπίρτο και βενζίνη. Σπίρτο και βενζίνη. Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολυθώ. Πιάσε να καώ πως θέλω και να τρελαθώ. Φύλαγε με, φύλα με και κάνε με καπνό. Σπίρτο και βενζίνη στη φωτιά μου να καώ. Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολυθώ. Πιάσε να καώ πως θέλω και να τρελαθώ. Φύλαγε με, φύλα με και κάνε με καπνό. Σπίρτο και βενζίνη στη φωτιά μου να καώ. Μέσα μου ήσουνα, τώρα ποιος νικάει. Κι αν η αγάπη μου κάποτε με φάει. Κι αν η αγάπη μου γίνει η θυλιά μου. Μέσα μου ήσουνα, μην εδώ κοντά. Μέσα μου ήσουνα, μην εδώ κοντά. Μην εδώ κοντά. Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολυθώ. Πιάσε να καώ πως θέλω και να τρελαθώ. Φύλαγε με, φύλα με και κάνε με καπνό. Σπίρτο και βενζίνη στη φωτιά μου να καώ. Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολυθώ. Πιάσε να καώ πως θέλω και να τρελαθώ. Φύλαγε με, φύλα με και κάνε με καπνό. Σπίρτο και βενζίνη στη φωτιά μου να καώ. Χθες το σώμα μου ήταν δικό σου. Καταφύγει ο καιρός ναό σου. Μέσα μου ήσουνα, τώρα τι θα γίνει. Πάλι κι εγώ με σπίρτο και βενζίνη. Παρανάλωμα σπίρτο και βενζίνη. Σπίρτο και βενζίνη.
C'était Marina Sati avec Spirto che Venzini. C'était le deuxième choix de Brice Berthoux et vous êtes toujours sur Radio Campus dans l'émission Pièces détachées qui parle du spectacle vivant en Île-de-France. Alice,
Je te rends la parole.
Ou ailleurs.
Enfin, surtout en Île-de-France, mais effectivement, de temps en temps ailleurs.
J'ai perdu le fil. De quoi parlait-on ?
Alors, on parlait des marionnettes.
Oui, les marionnettes et la censure. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient dans vos créations, notamment Rage, non ? Aussi dans Rage
Oui, alors on a fait deux spectacles, un sur Romain Gary et l'autre sur Camille Claudel. Donc sur Romain Gary, c'était l'idée de parler d'une censure, enfin de quelqu'un qui contourne la censure, voilà, puisqu'il il invente ce double subterfuge absolument génial, enfin d'un pseudonyme avec lequel il a pour la deuxième fois le prix Goncourt, donc Émile Ajar, et de son vivant il ne sera pas découvert, hein. C'est avec un ouvrage posthume qui s'appelle Vie et mort d'Émile Ajar qu'on se rend compte qu'en fait Émile Ajar c'était bien Gary et Gary était bien Émile Ajar, donc ça a duré 7 ans. Donc là on peut dire qu'il a couillonné la critique, ça nous a intéressé beaucoup de montrer, mais c'est un homme qui vit dans les, voilà, qui meurt en 80. Et puis l'autre volet, c'était Camille Claudel, c'est 60 ans avant, c'est une femme, elle est sculptrice, elle est artiste à Paris, et elle, c'est plutôt une critique aussi sociale, aussi du monde de l'art, sociétale, familiale, et elle se retrouve internée pendant 30 ans dans un hôpital psychiatrique pour soigner une paranoïa et on lui dit pas pourquoi elle est là. Donc vous voyez, c'est une méthode un peu violente. Et en ça, c'est aussi la petite sœur d'Antigone avec ce châtiment absolument mythologique. Voilà. Donc c'était deux cas de censure. Et c'est vrai que la marionnette qui n'a pas été censurée, qui parle justement de cette censure, ça nous paraissait assez puissant.
Et par rapport au lien avec la folie. Je me souviens que j'avais lu que votre dernier spectacle, le bal marionnettique.
Ouais, le bal marionnettique.
Vous avez travaillé avec des personnes en situation de handicap.
Oui.
C'était voulu. Enfin, comment ça venait d'où de.
Alors c'est un spectacle un peu particulier puisque là les actrices et les acteurs principaux sont les publics elles-mêmes, puisque c'est elles et eux qui font le bal. Il y a 120 marionnettes sur le plateau, elles s'emparent des marionnettes et c'est un vrai bal, voilà. Mais c'est un bal marionnettique, c'est-à-dire que on danse vraiment avec les objets, on a un rapport très particulier, on découvre et c'est entre le spectacle et la pratique, voilà. Donc oui, on avait travaillé avec d'abord il y avait 120 marionnettes, c'était un spectacle de factrices, de facteurs, et on avait travaillé avec une salle de plaisir, voilà, qui avait fabriqué une partie en tout cas des costumes.
D'accord.
Voilà. Et j'en reviens à l'oiseau de Prométhée. On a, alors, je suis désolé, hein, je suis contrairement à Alice, quelqu'un qui a vraiment un savoir uniquement du côté du public sur les marionnettes. Il y a plusieurs sortes de marionnettes sur scène. Est-ce que c'est des techniques différentes parce que Prométhée et l'oiseau, c'est, il me semble, deux techniques différentes. Les parcs, c'est encore une technique différente.
Oui, c'est en fait on invente notre instrument de musique avant de jouer. Voilà, donc ça nous donne aussi cette très grande liberté de proposer des objets. C'est comme si on réinventait notre monde puisqu'on choisit les acteurs et on choisit l'échelle qu'ils auront, leur physionomie et voilà. Donc effectivement, on passe de Zeus qui, comme le plus grand dieu qui se respecte, a du feu sur la tête, fait 3 mètres et ce sont des marionnettes chaussées, c'est-à-dire que les actrices et les acteurs sont à l'intérieur des marionnettes. Et puis l'oiseau dont vous parlez, le vautour ou les parcs, ce sont des marionnettes plus la marionnettiste, puisque c'est la même Christelle Ferreira qui joue les trois parcs et le vautour sont derrière.
C'est
étonnant.
Ah bah non, j'avais pas vu. Oui. Surtout que c'est pas, la scène n'est pas gigantesque, mais il y a quand même une certaine distance.
Mais c'est tout ce que permet aujourd'hui la marionnette. On cherche des histoires où on se dit là l'acteur n'aurait pas suffi, et c'est pour ça qu'on passe par l'objet pour essayer de les raconter, et ensuite on invente notre instrument qui va être le médium un peu de cette narration.
Et elles ont été réalisées par qui, les marionnettes ?
Alors, il y a toute une équipe.
Ouais, c'est... parce qu'elles sont riches. Enfin, ouais. Elles sont belles.
Ouais, ben, oui, oui, ben, nous, on les aime beaucoup. On devient complètement schizophrène. On l'était déjà avant, hein, mais là, voilà. Et donc, c'est Camille Trouvé, Amélie et Madeline, et Séverine Thiébault. Qui ont vraiment beaucoup travaillé sur les marionnettes. Il y a aussi Magali Rousseau, sont des factrices et facteurs de marionnettes. Bon, en l'occurrence, ce ne sont que des filles. Voilà. Et c'est le mélange un peu de ces arts, parce qu'Amélie, elle est vraiment factrice de marionnettes. C'est sur toute la mécanique, on va dire, sur tout ce qui est la robotique, ça va être Magali, sur tout ce qui est la création costume, mais tout ça est mélangé, puisque les
c'est
trois marionnettes, voilà.
Mm-hmm.
Ça va être Séverine. Donc voilà. Et puis Camille qui les invente et les co-inventent et les co-construisent.
Qu'est-ce qu'on pourrait... quelle date on pourrait annoncer pour...
Alors, oui, pour
les auditeurs.
Donc là, oui, on l'a dit tout à l'heure, il y a du 28 mai au 15 juin au Théâtre 14 pour... j'ai pas noté le spectacle.
Du rêve que fut ma vie. Oui, ça va être joué à Paris, c'est
oui.
ça
C'est un autre spectacle sur Camille Claudel et c'est sur les correspondances. D'ailleurs, c'est un spectacle qu'on a appelé les Respondances, puisque pour correspondance, il faut qu'on puisse voilà, recevoir et envoyer. Et elle a envoyé des lettres qui ont été bloquées par l'administration donc pendant 30 ans. Et on a retrouvé dans les archives de l'hôpital de Montvergue toutes ces correspondances. Et voilà, donc on a fait un spectacle sur... Alors là, vous allez voir, c'est un spectacle avec des formes marionnettiques non anthropomorphes. Mmh. C'est-à-dire, c'est que l'état du papier. C'est le sentiment du papier proche de l'humain qui, comme l'humain, se déchire, comme l'humain se met en boule, comme l'humain se plie, se froisse.
Wow. Voilà.
Et pas de date du tout pour l'instant annoncée pour l'Oiseau de Prométhée.
Il y en a plein à partir de la saison prochaine. cette saison, on a arrêté, on a commencé à Rouen, on a fini à Caen chez nos amis de la comédie. voilà, et puis l'année prochaine, on va reprendre et on jouera notamment une petite série à Châtillon.
Mm-hmm.
Et on jouera, on vous donnera toutes les dates en Ile-de-France. Le planning est en train de se construire. Mais on est très très heureux parce qu'il y a beaucoup de dates la saison prochaine pour ce
spectacle. Alors vous devrez attendre un petit peu puisqu'il y a un petit souci avec le site. Mais en tout cas, c'est prévu. Le calendrier de la compagnie sera en lien sur l'article sur le site qui accompagne l'émission. Et c'est là-dessus qu'on va devoir arrêter l'entretien.
Ben, on vous remercie Brice et puis bonne continuation dans ces beaux projets.
Et ben, merci à vous.
Merci
c'est bien
Brice Berthou. Et
essentiel.
Pour les auditeurs et auditrices, on se retrouve après une nouvelle pause musicale.
Präsentiert Sponsenwolken, Himmel flattern, Wind bläst, meine Nase friert und per Auspuff Rohre knattern. Ach, da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sie schob die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein. Prompt wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel flattern sehen und fliegt mein Blick dann himmelwärts. Tut auch die Seele weh, wie schön Natur am Abend. Stille Stadt, verknackste Seele, Tränen rennen, das alles macht einen mächtig matt. Und ich tu einfach weiter, wenn er auch. Oh,
und her Band et vous et c'était Naturtrain. Voilà. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris pour Pièces Détachées, l'émission du spectacle vivant en Île-de-France, voire ailleurs. Et dans un instant, les chroniques.
Il s'agit d'une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
Alors, nos chroniques ce soir, on parlera de la France Empire, d'Encantation, de Je vis dans une maison qui n'existe pas, d'Il Tango delle Capinere, il y aura également une petite auto-promo, et on commence tout de suite par deux enregistrements de nos deux grands absents, qui vont nous parler depuis très loin de la France Empire. On commence avec Guillaume, avec Guigui.
Alors oui, avec Camilla, on est allé voir la France Empire, donc virgule Empire, un empire. C'est de Nicolas Lambert et c'est au théâtre de Belleville. Donc c'est sous-titré Un secret de famille nationale. Donc le principe, c'est que en fait Nicolas Lambert va nous raconter toutes les histoires un peu cachées de notre pays, surtout dans son passé colonial. Et donc c'est vachement intéressant parce que Nicolas Lambert, finalement, c'est le prof d'histoire qu'on aurait aimé tout savoir, en fait. Hein. C'est le prof d'histoire... Alors, je sais pas si Julien, t'es un peu comme ça, mais bon, c'est le prof d'histoire enthousiasmant, c'est le prof d'histoire rigolo, séduisant, et puis surtout ce prof d'histoire qui lève le voile sur les non-dits. Donc, en fait, son spectacle, c'est un peu fait à la manière d'une psychanalyse de Marianne, donc la figure tutélaire de la France. Et puis Marianne, dans son passé, elle a eu des choses enfouies, des choses, voilà. Et donc ça se ressent sur nous peut-être. Sommes-nous capables de vivre avec ce passé non digéré, non discuté, non accepté? Et donc voilà, donc c'est évidemment très drôle au début et puis de plus en plus grinçant, de plus en plus inquiétant. Moi pour dire, j'en ai parlé après un peu aux collègues, la plupart du temps, bon, on me répondait « Ouais non, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ?» c'est vérifié tout ça, et puis malheureusement c'est vérifié, on peut aller vérifier tout ce que raconte Nicolas Lambert dans son spectacle. Et voilà. Alors, ça fait partie d'une série de spectacles, donc il y aura d'autres spectacles à venir. Il nous montre à la fin du spectacle la liste donc des exactions de l'armée française, enfin, je veux dire des interventions, pardon, mais bon, on en vient quand même à douter au bout d'un moment, quand on voit l'accumulation des plus que dérapages, pire que dérapages. Et donc, c'est des spectacles qui sont à venir et que je vous conseille chaudement d'aller voir. Donc, c'est actuellement au théâtre de Belleville. Et c'est jusqu'au. Du 3 avril jusqu'au 27 juin. Donc, allez-y, il y a vraiment le temps. Et donc, voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Camilla ?
Ah ben voilà, la transition est faite à Camilla.
Donc, France Empire. J'adore les histoires toujours sombres que Nicolas Lambert décide de nous raconter. C'est un énorme travail de documentation qu'il arrive à traduire dans un spectacle fort, drôle et émouvant. C'est aussi formellement très intéressant de voir la transition avec sa trilogie précédente que j'avais adorée, La démocratie, consacrée au pétrole, au nucléaire et à l'armement. Nicolas Lambert n'y employait que des documents bruts. Mais dans cette dernière pièce, il prend la parole plusieurs fois et mêlant son histoire familiale à cette histoire d'État. Pour moi, il est essentiel de voir France Empire pour comprendre la situation actuelle et l'esprit guerrier de notre président. En seulement 2 heures, nous avons un panorama assez impressionnant et détaillé des dégâts que la colonisation française a pu causer. Moi, j'ai appris plein de choses. Malgré la lourdeur du sujet, Nicolas Lambert arrive à nous plonger dans cette histoire tout en nous faisant rire et pleurer. Cette histoire sombre m'a donné très envie de brûler mes tout nouveaux papiers français en sortant du théâtre. Allez-y, voir ce spectacle. Vite.
C'était donc La France Empire avec Guigui et Camilla. Donc c'est un spectacle de Nicolas Lambert à voir au Théâtre de Belleville jusqu'au 27 juin. On continue avec Encantation, un spectacle étrange, complet, que je suis allé voir avec Alice. Alors je commence déjà ce titre. Un titre valise formé avec Anka et Incantation. Bon, c'est pas terrible comme titre. Mais c'est le seul reproche qu'on peut faire au spectacle, alors ça va. Le spectacle peut sembler un peu cher, c'est 40€, mais alors vous bloquez surtout pas à cause du prix, car vous allez passer un moment magique. Les yeux, les oreilles, la langue se donnent, se livrent pendant 1h30 au jeu du circassien scénographe Johan Le Guilherme et du chef Alexandre Gauthier. Cela ne semble durer qu'un seul instant, mais un instant dont on savoure la moindre seconde, le moindre geste des serveurs, serveuses, comédiens, comédiennes, le moindre élément d'un décor où tout est calculé, mesuré, contrôlé. On sent que l'ensemble de l'espace est vraiment entre leurs mains. C'est une brochette de talent qui est en scène et dans l'assiette. Alors on mange avec nos doigts, on lèche l'assiette, on est surpris, émerveillé, on ne sait pas à quoi s'attendre. Cela se joue encore demain et mercredi, à jauge très limitée. Alors c'est indiqué complet, mais je vous invite tout de même à tenter la liste d'attente et soyez à l'affût pour les prochaines représentations. Franchement, vous ne regretterez rien. Alice.
Bah, moi j'ai vécu hier soir une expérience artistique étonnante, belle, savoureuse, généreuse, du nom, comme tu dis, d'encantation, que j'ai trouvé ce mot vraiment étonnant. Mot curieux qui m'évoque l'incantation et l'anka, tout simplement. Ça peut être une hésitation entre les deux. En tout cas, c'est place à l'imaginaire. Dans l'attente de ce rendez-vous rare, exceptionnel, à ne pas manquer, je vous invite à vous livrer à cette expérience sensible, marquante, dès que le moment se présente à nouveau. Guettez les dates sur le site internet de Johan Le Guilherme, qui est également curieux, étonnant, plein de liens entre la science, l'art, le jardin. Enfin voilà. Vraiment, allez-y. Cet artiste ne se définit d'ailleurs pas comme un circassien, comme tu disais, Julien. Ah. Il se voit plutôt comme un praticien de l'espace des points de vue. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Les spectateurs formaient le contour de la scène, assis sur des chaises hautes à une table qui ressemblait à un bar.
Tu peux répéter comment il se définit ?
Oh, tu m'as coupé. Comme un praticien de l'espace des points de vue.
D'accord.
Okay. Oui, c'est vraiment ça. Et du coup, en regardant la photo de la scène, moi, c'est ce que j'ai perçu. Enfin, les spectateurs forment le contour de la scène assis sur des chaises hautes à une table bar. Ces pourtours aperçus en hauteur prennent la forme d'une étoile lumineuse dont l'intensité varie sur la piste des assiettes. Pirouette à hauteur d'assiette, jeu de matière, de mots, de couleurs. À l'intérieur de l'étoile se joue aussi l'expression culinaire de ce chef étoilé Alexandre Gauthier, liée à celle de cet inventeur aux multiples talents, Johan Le Guilherme, comme vous l'a dit, assisté de préparateurs, préparatrices, à la fois cuisiniers et comédiens. Ne révélons pas tout, ceci dit. L'expérience se déroule d'ailleurs comme une expérience avec des recommandations solennelles. L'effet de l'encantation est progressif, un art qui rend la vie plus intéressante que l'art, comme dirait Robert Filliou. Nous sommes invités à suivre des gestes précis, comme une chorégraphie d'ensemble, autorisés à d'autres moments de changer les codes et les conventions du repas. La dégustation se fait à la fois de façon personnelle, mais aussi comme un banquet collectif. Ça nous renvoie à ce fameux Prométhée-là, le feu. On regarde comment s'en sort le voisin pour plier une assiette peu conventionnelle. La géométrie des formes structure l'instant avec sobriété. La surprise fait poindre rire et sourire sous les lumières tamisées. Au départ, moi qui avais une faim de loup après avoir traversé les alentours, j'ai eu un peu peur. Hein. Ce repas qui me semblait très conceptuel au départ avec l'annonce de la traque à pois. Mais non, heureusement qu'il n'y avait pas que... Pourquoi tu me coupes ?
Ça m'a, ah, je ça ne m'a... te coupe pas.
Mais si. En fait, on s'est retrouvés... Bon, je le dis, je révèle juste ça. On s'est retrouvés avec 3 pois dans l'assiette qu'il m'était impossible d'attraper.
T'en dis déjà trop,
découvrez
tout. Qu'il
m'était impossible
tout.
D'attraper. L'expérience était si drôle. Accéder à la saveur délicieuse d'un mets se mérite, Julien. Et c'est comme ça que j'ai compris ce que veut dire le mot « délicieux ». Le retour au monde, à la matière. L'ensemble de mes recherches s'inscrit dans le plus vaste... là, c'est pour citer pour citer Joanne, je trouve ça très intéressant. Son projet, en fait, alors je le cite juste pour finir, « Le retour au monde à la matière, l'ensemble de mes recherches s'inscrit dans le projet plus vaste que j'appelle attraction, qui décline le regard de quelqu'un qui tente d'autres chemins que ceux déjà établis ou donnés comme vrais. Le monde n'est pas uniquement ce que l'on dit, il peut être vu autrement. » C'est exactement ça. Et je vous invite vraiment à aller voir Terce, qui va se jouer à l'Azimut du 23 au 28. Et également le Pas Grand Chose au Théâtre de la Piscine le 14 mai. On essaiera de faire une chronique.
C'est
génial.
Beau, c'est bon, c'est à l'Opéra de Massy jusqu'à mercredi.
Yeah.
Et la parole est à Thomas pour nous parler de Je vis dans une maison qui n'existe pas.
Alors Thomas, qu'est-ce que.
De Lorraine Marx. Il est de ces pièces qui chamboulent tout, il est de ces pièces qui remettent en cause votre position même de critique. C'est le cas ici. Cette impression qui me vient alors que je m'apprête à écrire mon papier, que je vais immanquablement m'adonner au mansplaining. Explication faite par un homme à une femme sur ce qu'elle doit faire ou ne pas faire de façon condescendante, justifiée par le simple fait de que cette dernière soit une femme. Mansplaining donc, ou que je vais valider la proposition de Lorraine Marx. Elle n'en a pas besoin de ma validation. Je n'ai aucune explication à lui donner ici. Lorraine Marx connaît son métier et son sujet et cette impression, je suis bien heureux de la ressentir. Pas de ouin-ouin. Cette pièce, c'est pile ce que mon identité, c'est pile ce que j'attends du théâtre, qu'il me bouscule dans mes retranchements, qu'il fasse vaciller mon identité, qu'il me permette d'être plus en accord avec mes valeurs en les interrogeant, en les critiquant. J'ai juste envie de dire merci et de fermer ma gueule. Mais je vais quand même faire une chronique. Je vis dans une maison qui n'existe pas, c'est d'abord quelqu'un qui vient dire qui elle est, ce qu'elle fait. Une confession donc, avec une voix basse, douce, presque susurrée. Ces voix qu'on entendrait alors que la nuit est tombée, qu'il est l'heure de dormir. Ces voix pour raconter des histoires aux enfants parce qu'on les aime. Pas une voix de colère ou d'hystérie, mais une voix bienveillante. Pourtant, la colère s'exprime, la colère menace. Mais ce qui ressort, c'est ce souci de prendre soin de soi, de l'autre, de l'accueillir dans toute sa différence. Cette colère, elle provient de la peur. Peur parce qu'il y a eu des coups, il y a eu du harcèlement, il y a eu des assignations illégitimes, des diagnostics péremptoires, des traitements abusifs. C'est donc la colère de celle qui a été blessée. Une colère qui n'aura pas de limite, une colère sans retour, une colère de survie. Pour celle qui n'a plus rien à perdre qu'elle-même. Et tout est là. Cette voix qui parle, nous parle de sa survie, de comment elle a organisé sa survie, alors même qu'autour tout était hostilité. Se réfugier dans une maison qui n'existe pas, y vivre avec d'autres êtres qui sont peut-être d'autres nous, mais ce serait une explication et pas de mansplaining, j'ai dit. Et il y a de l'espoir, enfin, il y a de l'espoir, de l'espoir. De l'espoir parce que sinon, on serait tous partis, petit mensonge. De l'espoir comme pour nous retenir, une sorte de séduction, si séduire c'est bien conduire l'autre à soi. Mais en fait, on s'en fiche de cet espoir. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement ce souci de prendre soin, cette écoute induite par la voix douce qui aura appris à dissimuler sa colère pour survivre. Elle était palpable. Pardon, cette écoute dans la salle. Une salle qui semblait répondre en silence, nous aussi. Nous aussi, on ne veut plus de ces négations de nos vies, de nos existences, de nos choix. Nous aussi, on veut prendre soin des uns et des autres et construire un monde ensemble, un monde qui ne pathologisera pas tout ce qui semble dévier, ne pas être normal. Gardez-les vos pilules, laissez vivre ceux qui vous assignaient à la folie. C'est vous les fous. Nous, au moins, on a la lucidité d'écouter ceux qui vivent dans nos têtes. On essaie de faire face, de concilier les différences quand vous ne faites que piétiner ce qui vous dérange, ce qui ne rentre pas dans les cases. Le silence d'une salle comme un cri en cœur. Il faut vous dire deux mots du texte qui a tout d'une logorée et que c'est une gageure, ça, d'arriver à faire sonner une langue écrite comme une langue parlée, parce que c'est terriblement bien écrit. De la poésie diamant brut. Et l'interprétation est d'une finesse implacable, avec des intonations, des rythmes, des émotions qui annulent toute distance entre interprète et spectateur. Il faut parler des lumières qui sont comme intra-utérines, sourdes, matricielles. Il faut dire pourtant que ce ne sont là que des effets et que tout ici est juste et que cette radicalité fait sens et produit communauté. On se retrouve embarqué dans cet univers totalement à la folie, et c'est pour le meilleur, et merci, donc.
Et Camilla ?
J'ai beaucoup aimé ce spectacle de Lorraine Marx. Il y a, dans cette pièce, une précision, une force qui me semble assez incroyable. J'étais touchée par son univers et ses personnages, Nikki, Madame Monstre, les tout petits, et surtout, Nuages les Nuages. J'aime voir cette colère sur scène. Ça m'a fait réfléchir sur la peur que les gens normaux ont de ceux qu'ils considèrent marginaux et sur la violence qui est souvent associée à l'enfance. J'aime les bruits, les gestes qui accompagnent Lorraine Marx sur scène. L'obscurité nous permet de nous retrouver dans un espace réduit et de focaliser notre attention sur le récit. Son histoire m'a fait penser au monde des contes des frères Grimm. L'armée des tout-petits semble sortir de là. Donc, allez-y. Voir cette pièce à théâtre ouvert.
C'est « Je vis dans une maison qui n'existe pas ». Merci Thomas, merci Camilla. C'est de Lorraine Marx, c'est au théâtre ouvert. Et c'est jusqu'au 16 avril, c'est-à-dire jusqu'à demain.
Jusqu'à demain.
Et maintenant, puisque Thomas, tu avais la parole, on va parler un petit peu du festival du mouvement qui se joue au Théâtre de l'Opprimé du 24 avril au 5 mai, puisque ta compagnie, la compagnie des débutantes, ouvre ce festival avec Le Pays du 24 au 27 avril. C'est dans le 12e Théâtre de l'Opprimé. Et on continue, alors là on va franchir les Alpes, puisqu'Alice va de nouveau s'inviter dans l'émission pour nous raconter ce qui se passe par là-bas.
Outre-Alpes.
Salut tous les amis de Pièces Détachées. C'est Alice, votre correspondante Outre-Alpes, qui va vous rapporter sur les meilleurs, les moyens, les pires spectacles qui passent sur les planches en Italie. En fait, je vais vous parler d'une super pièce de Emma Dante. La pièce que j'ai vue au Théâtre dei Rifredi de Florence s'appelle Il Tango delle Capinere, le tango des fauvettes traduit. Et elle sera bientôt en France. J'espère qu'en fin d'année, elle arrive à Paris aussi. Le titre de la pièce est issu d'une vieille chanson italienne, mais fait déjà référence à la dimension de danse réelle et métaphorique dans laquelle la pièce nous emporte. On parle parfois du théâtre de Emma Dante comme d'un théâtre sombre, creusant dans les abîmes les plus troublants de l'esprit humain, mais là j'ai trouvé qu'en fait une douceur, une ironie, une tendresse et à la fois une mélancolie poignante sont déployées pour parler d'un truc finalement assez rare aujourd'hui, d'un couple qui passe toute la vie ensemble. Et comment parler d'une relation sinon comme d'une longue danse faite d'écoute et d'impro, scandée par des accélérations, des pauses, des jeux d'équilibre et changements de pas? Spoiler, j'ai pleuré. Un soir, peut-être c'est la fin de l'année, une petite mamie toute seule est en train de contempler dans le silence un grand coffre. Elle en sort des objets, notamment un carillon, qu'elle a l'air de bien connaître. Au bout d'un moment, parmi ces objets, ou plutôt à cause d'eux, un monsieur très âgé, son mari, ou son fantôme, sort aussi d'un coffre, et malgré leurs mouvements raides et le sommeil qu'ils ont apparemment, ils commencent à danser. Voilà qu'à partir de ce moment, l'histoire de leur relation est racontée à rebours, à travers la danse et le mouvement scénique, un peu comme dans le film de Ettore Scola, sans parole, ballando, ballando. Mais le long de la pièce, les personnages rejeunissent, deviennent de plus en plus jeunes, et leur corps fort et habile pour incarner le couple soudé de jeunes passionnés de danse que le vieux monsieur de la scène initiale ont été. Manuela Losico, comédienne historique de Emma Dante, et Sabino Civilleri font le preuve d'être pas seulement des interprètes, mais aussi des danseurs exceptionnels. À certains moments de leur corps sué et vivant, explosent des sons, des fous rires, des allaitements, des toussotements, des ronflements, et parfois même des bribes de Siciliens, devenant presque un grammelot dans les discussions quotidiennes familiales ou pendant le jeu du couple avec leur bébé. Le dernier temps de la danse, dans la pièce comme dans la vie, est marqué par le goût doux amer des souvenirs et des fantômes du passé. Si vous aussi appartenez à une génération jetée dans une réalité liquide d'appli de dating où la relation la plus intime et durable qu'on a, c'est celle payante avec un psy, allez voir ce spectacle merveilleux qui réconcilie avec l'amour un sentiment quotidien, humain, intime, tellement concret et contradictoire comme ils le sont les êtres humains finalement. La pièce sera le 30 et 31 mai à Aix-en-Provence. De l'Italie, c'est tout. Merci, à la prochaine les gars. Ciao, ciao.
e questa la canzone di mille capi nere.
Merci Alice, et si vous n'êtes pas Aix-en-Provence fin mai, on espère, comme ça a été dit tout à l'heure par Alice, entendre Il Tango del Capinere avec un superbe accent. Fin 2024 en Île-de-France, c'est le moment pour nous de récapituler. On a reçu Brice Berthoux qui nous parlait notamment de l'Oiseau de Prométhée, mais surtout des 12 pages de spectacle des Anges au plafond que vous pouvez retrouver sur leur site les Anges, ça s'appelle lesangesauplafond.fr. Tout est récapitulé. En chronique, nous avons parlé avec enthousiasme de la France Empire, d'encatation, de je vis dans une maison qui n'existe pas. Et puis pour terminer avec Alice, c'était Il Tango delle Capinere. Donc pour je vis dans une maison qui n'existe pas, c'est jusqu'à demain. Pour encatation, jusqu'à mercredi. Et pour la France Empire, vous avez jusqu'au 27 juin. C'était une émission préparée, enfin une émission de Camilla Pizzicillo, préparée par Alice, présentée par Julien, réalisée par Constance à la régie, Constance que vous pouvez écouter dans toutes les émissions de Radio Campus, soit au micro, soit derrière, avec la participation d'Alice Bologna, de Guigui et de Thomas Adangarnung. On se retrouve le mois prochain, c'est le 13 mai, à 20h sur Radio Campus. D'ici là, allez au théâtre, allez voir du cirque, allez voir de la danse, allez écouter de la musique et dites-nous ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, envoyez-nous plein de messages, on les lira peut-être pas, mais ça nous fera plaisir quand même.
Hasta luego.
On vous dit au revoir.